Donc, comme je vous ai dit, on en était au début de la carrière de Jacob. Je vais faire un petit rappel, mais en passant, je vous signale un livre très amusant. Si vous voulez la recette du potage de lentilles de Jacob, elle est là, ici. Donc, je la tiens à votre disposition. Je n'ai pas encore essayé, mais ça viendra. Ah, espérons. Bon, ce livre a été fait en fonction d'une part des textes bibliques et d'autre part de toutes les fouilles qui ont pu être faites au Moyen-Orient pour avoir une petite idée de ce que les gens mangeaient. Vous savez, il n'y a rien de tel que les monceaux d'ordures qui ont été fouillés par les archéologues pour retrouver les noyaux, les pépins, etc., pour avoir une petite idée de ce que les gens mangeaient. Donc c'est à partir des découvertes archéologiques et des textes bibliques qu'ils ont fait ça. C'est assez amusant, pourquoi pas. Donc vous avez la recette. Je rappelle aux enfants particulièrement que la vie à cette époque-là, je ne sais pas s'ils y voient quelque chose, n'avait rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. On est il y a 4000 ans à peu près. Les gens étaient très évolués pourtant, mais vous imaginez une vie sans autoroute, sans route, sans bus, sans train, sans avion, sans voiture, sans téléphone portable, sans CD, moi aussi, mais sans CD, sans DVD, etc. Et pour se déplacer, je crois que vous les voyez ici, des gentils petits ânes, et puis certainement quelques chameaux, bien que les archéologues se crêpent le chignon là-dessus, mais bon, moi je pense qu'il devait y en avoir. Et puis, voilà, on vivait sous des tentes. Il y avait quand même des villes, hein. Je vous rappelle qu'Abraham venait d'une région bien citadine, la ville de Ur était magnifique. C'était des gens tout à fait évolués, mais ils vivaient très différemment de nous. Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de se replonger un petit peu dans leur culture, dans leurs coutumes, pour retrouver le sens profond de ce qu'on lit dans la Bible. Parce que vous voyez, je me suis aperçue, quand j'ai commencé l'histoire de Jacob, je me suis dit, là, je ne vais pas avoir grand-chose à dire sur Jacob. Et puis plus on se plonge dans la culture, plus on dit, oh là là, ce texte de 5 lignes, mais qu'est-ce qu'il est riche. Et effectivement, on a beaucoup de choses à puiser dans l'histoire de Jacob. Alors je rappelle, un tout petit rappel par rapport à la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là surtout aussi, depuis la création et surtout depuis Noé, la transmission du Dieu unique tout-puissant, El Shaddai, elle l'appelait, elle s'est faite. Mais de plus en plus, les hommes ont imaginé un Dieu à leur propre image. Le problème, c'est que Dieu, on ne le représentait pas, ce « elle », ce Dieu créateur tout-puissant. Et donc, les hommes, ils aiment bien avoir quelque chose de visuel. Hein, c'est plus facile d'imaginer les choses quand je vous montre ça. Et c'est plus facile pour les gens d'adorer quelque chose qui se voit et qu'on peut toucher. C'est très dommage, mais c'est comme ça. Et donc, ils se sont imaginés toutes sortes de dieux à leur image. Des dieux qui se battaient, des dieux qui étaient jaloux les uns des autres, des dieux qui se dévoraient même entre eux. Toutes sortes de dieux, et chercher tous les moyens possibles pour attirer leur faveur. Alors là, on est complètement différent du Dieu d'Abraham, tout autre, pas le fruit de l'imagination de l'homme, parce que franchement, l'homme ne l'aurait jamais imaginé comme ça. Un Dieu créateur qui, lui, cherche à communiquer avec l'homme, qui cherche à faire alliance avec lui. Et Abraham avait bien sûr entendu parler de ce Dieu quand il était à Ur, en Chaldée. Mais l'appel se fait plus précis. Va, quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Quand j'étais petite, je me disais, mince, mais comment il a pu répondre à quelqu'un qu'il ne connaissait absolument pas? Non, il le connaissait. Il faisait partie des dieux connus. Mais malheureusement, les gens avaient plus tendance à aller vers les dieux qui étaient représentés par des bêtes, etc. Évidemment. Mais il faisait partie des dieux connus à l'époque. Et d'ailleurs, une autre preuve, c'est Job. Le livre de Job, savez-vous qu'il date de la même époque qu'Abraham, enfin Abraham, les patriarches. Et Job a dit quelque chose, pour moi c'est un verset extrêmement important, à la fin de ses malheurs, on l'entend dire « Adieu, mon oreille avait entendu parler de toi ». On peut dire qu'Abraham avait entendu parler de ce Dieu, elle. « Mais maintenant, mon œil te voit ». Ah, c'est deux choses, d'entendre parler de Dieu, comme Abraham, et puis ben, après de le voir, de faire alliance avec lui. Et c'est exactement l'expérience d'Abraham. Je trouve que Job, effectivement, c'est la même époque, c'est exactement l'expérience d'Abraham. Il a entendu parler de ce duel, et puis à un moment, il va le voir, le rencontrer. Dieu l'appelle à quitter son pays, sa famille. De la même façon, Dieu nous appelle, nous. Hein, 1 Pierre 2,9 dit, vous êtes un peuple élu, une nation sainte, un sacerdoce royal. Des gens, saints, ça ne veut pas dire la petite auréole sur la tête, ça veut dire mis à part, consacré à. Hein, c'est autre chose, on est tous mis à part et consacrés pour Dieu. La vie d'Abraham va être un long voyage, marqué de plus en plus par des paroles de bénédiction, une proximité de plus en plus grande avec Dieu, à tel point qu'on arrive à la fin de la vie d'Abraham, où Dieu dit « Cacherai-je quelque chose à Abraham ?» Waouh, ça c'est une relation amicale, hein ?« Cacherai-je quelque chose à Abraham ?» À propos de Sodome et Gomorre, non, je peux pas lui cacher ça. Donc la relation s'est faite au fil de dizaines et de dizaines d'années. Ça aussi, on l'oublie, hein, on va en parler tout à l'heure. Nous, on aime bien que les choses soient, hop, mon café, une minute au micro-ondes, c'est bon. C'était pas comme ça dans ce temps-là. Et vous le voyez bien, hein, la vie avait un autre rythme. Fixez-vous bien cette image, les enfants, dans les yeux. La vie avait un autre rythme quand on vivait sous les tentes dans le désert. C'était tout à fait autre chose. Il n'y avait pas d'eau courante non plus, hein. Il fallait se la chercher au puits. Et quand il n'y avait pas de puits, il fallait se le creuser. Alors, ça a été un long apprentissage pour Abraham, de la dépendance envers Dieu. Vous savez, quand vous n'avez pas de possession fixe, et qu'il faut dresser la tente, subir les vents du désert, etc., on est dépendant de Dieu. On le sait, tout au moins, on l'est tous. Le problème, c'est que nous, on ne le sait pas. Et puis, toujours en danger. Il y avait des peuplades qui circulaient hein, en Israël à cette époque, et qui n'étaient pas toujours bien faciles. Il n'y avait pas de principe, il n'y avait pas de croix rouge, et les blessés... C'était pas un problème. Hein. On faisait des prisonniers, on faisait des esclaves, et puis on tuait les autres. Il y avait une certaine cruauté quand même. Hein. Et puis, dépendance de Dieu, une connaissance de Dieu qui grandit, un long apprentissage aussi de l'obéissance à Dieu. Ça, c'est un vilain mot, surtout en notre époque, et surtout chez les enfants. Obéir, c'est pas beau hein, comme mot. Hein. Très, très mauvais, ça. Hein. On n'aime pas. Et vous savez, je vais vous dire un secret, les enfants. Les adultes sont encore pires que vous. Obéir à Dieu. Oh ! On aime bien prendre les choses en main. On aime bien prendre les choses en main. Prendre notre vie en main. C'est ma vie. Vous n'avez jamais entendu ça ? Je fais ce que je veux. Et puis, si je n'ai pas ce que je veux, ben, je peux manipuler. Et même faire des demi-mensonges. Abraham a fait des demi-mensonges ? Ouais. Il a osé dire que sa femme était sa sœur. Quand même, pas mal de culot, hein ? C'était un demi-mensonge, parce que c'est vrai que quelque part, mais quand même, c'était un mensonge. Et puis, après ce long apprentissage, on arrive sur la vie de l'enfant de la promesse, Isaac. Ils ont attendu tellement longtemps. Cet enfant était un miracle. Dieu leur avait dit avait dit à Abraham, tu vas être le père d'un peuple nombreux. Ça commence mal, sa femme est stérile, puis ils ont un enfant. Petit commencement, j'avais dit la semaine dernière, Dieu n'a pas peur des petits commencements. Commencer un peuple avec des femmes stériles, c'était pas facile. Isaac va vivre en immigré. Alors lui, j'ai remarqué, alors je ne sais pas si les gens qui s'y connaissent mieux que moi, on n'a pas d'étudiants de veau ici, mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup moins voyagé qu'Abraham, que lui était beaucoup plus sédentaire. Il va vivre en immigré, donc vous voyez, le mot est déjà, avant c'était pèlerin. Là, c'est immigré. Il va s'installer. La preuve, c'est que lui va pouvoir cultiver. Alors, pour cultiver, il faut rester un petit moment sur place. On ne peut pas se sauver comme ça. Et donc, ils vont continuer à vivre de cette manière-là. Mais, malgré tout, ils vont pas seulement avoir des troupeaux, mais cultiver la terre. Et la Bible nous dit qu'Isaac va devenir très riche. Tellement riche que notre immigré va subir la jalousie des autres. Les habitants du pays vont commencer à trouver que ce n'est pas juste hein, qu'ils soient si riches que ça. Ils bougent moins, ils bougent un petit peu, hein, mais un petit peu vers l'est. Je n'ai pas trouvé beaucoup, beaucoup de voyages chez Isaac. C'est un homme de paix. Alors, les gens n'aiment pas trop, parce que c'est vrai qu'il y a moins d'action. Hein. Vous lisez la vie d'Isaac, il y a beaucoup moins d'action. Abraham, il y a eu des guerres, il y a eu des grosses catastrophes, il y a eu des tas de choses... Bah, Isaac, c'était un homme de paix. Les ennemis venaient lui boucher ses puits. Quand il n'y a plus d'eau au robinet, on est mal. Hein. Et quand il y a plus d'eau, quand les puits sont bouchés, c'est terrible. Parce que, vous savez, nous, on boit 1,5 litre, 2 litres par jour. Mais j'ai pas fait le calcul, mais un troupeau de moutons, quand ça boit, c'est terrible. Et pour tous les animaux, les chèvres aussi et tout. Donc là, il fallait des puits. Hein. Et les ennemis, ben, ils avaient trouvé le truc, ils lui bouchaient ses puits. Et ben, au lieu de chercher à se venger, et ben, ils débouchaient les puits. Un homme de paix. Il n'a pas entamé une guerre, pourtant il avait des hommes, il avait des serviteurs, mais c'était un homme de paix. Et je crois que moi j'aime bien Isaac. J'ai trouvé qu'il y a des tas de commentateurs qui... Bon, moi je trouve que c'est un homme de paix, c'est formidable. Il va même jusqu'à pardonner à Abimélech, donc un de ses ennemis les plus jaloux et les plus désagréables, qui avait commandité pas mal de bouchages depuis. Et il va même jusqu'à manger avec lui, faire une alliance, un serment de paix. Waouh, quel homme! Moi, je trouve qu'il fallait le faire à cette époque-là où tout était réglé par la force. Bon. Et puis, très important, Isaac va intégrer complètement les promesses et les bénédictions de Dieu qui avaient été faites à Abraham. Elles vont lui être renouvelées à Beersheba. La promesse qui avait été faite à Abraham était celle-ci, entre autres, parce qu'elle est répétée plusieurs fois. « Je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils ». Vous voyez, dès le début de la Bible, le besoin de la transmission aux enfants. Les enfants sont au centre de la Bible. Donc les enfants, vous avez votre importance. Et il dit, je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison après lui de garder la voie du Seigneur en agissant selon la justice et l'équité. Et puis cette promesse est répétée à Isaac, Genèse 25, 24, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, n'aie pas peur. C'est vrai que ce n'était pas un guerrier lui, hein. N'aie pas peur. Car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. Promesse de Dieu. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'il va la transmettre correctement? Je ne sais pas, mais Ésaü n'a pas l'air d'avoir compris le message. Il a donc deux enfants, des jumeaux, et sa femme va consulter, Rebecca va consulter l'Éternel, parce que déjà, ils avaient attendu 20 ans, elle aussi avait un problème de stérilité. Ils vont consulter l'Éternel quand elle est enceinte, pour savoir, elle va consulter, pour savoir ce qui se passe, parce que ces deux enfants ont l'air de se battre. Hein. Moi, je n'ai pas eu de jumeaux, mais déjà, un, ça bouge tellement. J'imagine, deux, ça ne doit pas être triste. Hein. Et elle se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu lui dit que, en gros, le deuxième va être le maître de l'aîné, va être plus grand que l'aîné. Ça, ça va complètement à l'encontre des coutumes de cette époque. La coutume, c'est la coutume. On respectait l'aîné, c'était quelque chose de très, très important. Le plus jeune. Et puis effectivement, on a beau avoir des jumeaux, ils ne sortent pas les deux en même temps. Donc c'est Ésaü qui est sorti le premier. Et Jacob, le coquin, il avait attrapé le talon de son frère. Alors vous imaginez les deux petits bébés, le premier arrive. Et Jacob, et vous savez quand un bébé serre quelque chose dans ses doigts, même un nouveau-né, c'est terrible. Je me souviens, ma mère m'a raconté que quand je suis née, moi j'ai attrapé les ciseaux du médecin. Et que le médecin a eu toutes les peines du monde à reprendre ses ciseaux, parce qu'il ne voulait pas me faire mal, évidemment. Et une fois que les petits doigts sont serrés autour de quelque chose, pas facile de les prendre un par un, parce qu'on en retourne deux, il y en a deux qui se referment. Et il tenait son frère par le talon. Alors il se trouve que c'est important, pourquoi? Parce que les gens à l'époque, ils donnaient un nom en fonction de ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils ressentaient, de ce que Dieu leur avait mis sur le cœur. Et il va s'appeler Jacob. Parce que Jacob, c'est lié au mot talon. Malheureusement, il y a un verbe qui dérive de ce mot-là et qui veut dire supplanteur. C'est fait avec la base du mot talon, hein, c'est un mot qui ressemble. Supplanteur, trompeur. Aïe, aïe, aïe. Il est parti avec un nom difficile dans la vie, le pauvre vieux. C'est pas évident de démarrer sa vie en ayant comme nom un nom qui ressemble à trompeur. Alors, je posais la question, est-ce qu'il va y avoir transmission des paroles ? D'Abraham à Isaac, il y a eu, d'Isaac à Jacob et Ésaü, certainement. Mais apparemment, ça ne suffit pas toujours. Il appartient, Jacob, à cette fameuse troisième génération dont on a parlé la semaine dernière. Hein, le grand-père construit l'usine, le père l'a fait marcher et le petit-fils l'a fait couler. Ça, c'est le maire de ma commune qui dit toujours ça. Mais bon, il y a un peu de vérité là-dedans. La troisième génération est problématique. Parce qu'il pouvait très facilement sombrer dans la religiosité. Abraham a dit, il faut faire des sacrifices. Abraham a dit, il faut faire la circoncision. Abraham a dit, et puis je le fais. Puis ça ne représente plus rien pour moi. C'était un risque. Arriver à la troisième génération, c'est un risque énorme. C'est pour ça qu'il faut être prudent avec nos enfants, qui ne copient pas simplement ce qu'on croit. mais qui vivent quelque chose de personnel. Et puis, ils pouvaient aussi faire des compromis, ça a été le cas d'Ésaü. « Oh, allez, je me marie avec des femmes du pays, et alors ?» Ce n'est pas du tout ce qu'Abraham avait enseigné, ce qu'il avait fait pour Isaac. Vous vous rappelez pour Isaac ? Il avait envoyé son serviteur à plus de 900 kilomètres chercher une femme dans une famille qui connaissait le Dieu, elle, le Dieu Tout-Puissant. Moins bien qu'Abraham, certes, qui le connaissait. Quand même, hein ? Pas question de faire des compromis. Et puis, cette troisième génération, elle peut aussi rechercher une relation personnelle avec Dieu, comme Abraham. Rappelez-vous que Jacob avait 15 ans quand Abraham est mort. Donc, ils ont eu le temps d'échanger. On constate que Jacob, lui, il croit à ce que a dit Abraham, Isaac et Rebecca. C'est clair. Ça se voit dans sa façon de réagir. Il y croit même très fortement. On va voir pourquoi. Il croit à la parole de Dieu qui a été donnée à sa naissance, que ce serait lui qui dominerait son frère, et pas ce qui est normalement la coutume, l'aîné qui domine. Alors, je vous le dis en passant, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, l'aîné en général avait au moins le double des possessions. Il était héritier du nom, de la réputation de la famille, mais il avait aussi des responsabilités énormes. Il devait pourvoir pour ses parents âgés, il devait pourvoir pour ses sœurs. Rappelez-vous qu'à l'époque, les filles ne pouvaient pas aller travailler dans les bureaux ou faire d'autres boulots, et elles étaient quand même bien malheureuses si elles étaient veuves ou si elles étaient célibataires. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse cultiver la terre pour elles et les aider. Donc, il était responsable de toute la famille. C'était un rôle très important. Il y avait des bénédictions qui étaient liées à ce rôle, mais les deux allaient ensemble. Donc, il croit à la parole de Dieu qui a été donnée, mais le seul mais avec Jacob, c'est que visiblement, il ne connaît pas encore très personnellement ce Dieu Tout-Puissant. Il a, comme on a dit tout à l'heure, il a entendu parler Abraham, il a entendu parler Isaac et Rebecca, mais il n'a pas une expérience personnelle. Par ailleurs, c'est un homme extrêmement actif, intelligent, entreprenant. Il est paisible, lui aussi, comme son père. Mais il est entreprenant, comment je le sais ? Ben, il suffit de voir ce qu'il a fait chez Laban. À cet âge-là, il ne pouvait pas s'improviser maître de troupeaux aussi énorme. Ça demande un savoir-faire. Alors, les enfants, vous imaginez peut-être que s'occuper d'un troupeau, c'est simplement marcher devant et vous avez tous les petits moutons qui font « bé » derrière vous. Mais non, il y a énormément de travail. Parfois, ils sont malades, il faut les soigner. Il faut s'arranger pour qu'au bon moment, on puisse mettre les mamans avec les papas pour qu'ils aient des petits et qu'il y ait suffisamment de petits pour assurer la relève. Ensuite, il faut mettre quelquefois les agneaux au monde, il faut aider. Il y a tout un savoir-faire, il y a tout un travail. Et visiblement, Jacob était bien, bien à l'aise dans ce travail. C'était un bon gestionnaire. À l'époque, on ne gérait pas des usines, on gérait des troupeaux. Je voudrais vous y voir. Des troupeaux énormes, puisque, soi-disant, Isaac était extrêmement riche, ça veut dire qu'il avait des troupeaux gigantesques. Et donc, il fallait un savoir-faire, une intelligence. Il fallait gérer pas seulement les bêtes, mais les gens, ça c'est encore pire. Les bergers, dans la Bible, pourquoi je vous le dis ? C'est parce que dans la Bible, c'est décrit que souvent, ils se disputaient avec les autres bergers. Qui est-ce qui aurait le puits le premier ? Et puis, qui va rouler la pierre ? Et puis, qui a oublié de la remettre ? Et qui ? Et oh là là ! Et ils se disputaient. Et qui va sur ce pâturage ? Non, c'était moi qui étais arrivée d'abord, poussez-vous de là. Et il fallait gérer tous ces conflits entre les bergers, entre les serviteurs et, avec les ennemis, les bergers d'Abimélec. Donc, c'était pas triste, hein, ils s'ennuyaient pas. Croyez-moi, ils s'ennuyaient pas. Alors, les années sont passées. Là, je vous ai décrit un petit peu la vie. On est dans cette configuration. Et rien de particulier ne s'est produit. Et mettez-vous à la place de Jacob, un homme actif. Mais misère, quand est-ce que je vais pouvoir voir cette prophétie se réaliser ? Mais Dieu a dit. Et puis bon, Ésaü, il fait ce qu'il veut, là. Les années passent, il ne se passe rien. Il a juste cette promesse dans sa tête. La vie se déroule plutôt bien, par ailleurs. Ésaü devient un chasseur. Alors, j'ai essayé de réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire à cette époque d'être chasseur ? Quand on est parti ce matin, on avait tous les chasseurs de la commune là, qui nous ont croisés. C'est sympa, ça a un bon côté. Hein. Ésaü était un excellent chasseur. Alors, vous savez, un chasseur, qu'est-ce qu'il aime quand il va à la chasse ? Je ne sais pas s'il y en a qui aiment la chasse ici, mais qu'est-ce qu'il aime ? Il aime ce sentiment de liberté. Il peut aller où il veut, surtout dans ces pays-là. Hein. Il n'y avait pas de clôture. Il y a un sentiment d'indépendance. Je vais à la chasse quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie. Il faut être combatif, parce que parfois on rencontre des animaux pas très sympathiques. Il faut être courageux, il faut être intelligent. Parce que si on va, par exemple, contre le vent, les animaux, s'ils sont derrière, ils ont l'odeur. Donc tout dépend où on veut chasser, où on veut poser ses pièges. Il faut savoir où est le vent, dans quel sens il va, etc. Et il faut être rusé. Il faut savoir observer. Et lui aussi, il était rusé. Croyez pas que seulement Jacob, Ésaü, était rusé. Parce qu'on n'attrape pas des animaux comme ça. Alors, dans notre commune, Evelyne le connaît bien, on a M. Jam, qui est un chasseur, très bon chasseur, et je lui ai souvent posé des questions, il sait tout. Il connaît le territoire de la commune sur le bout des doigts. Et je me souviens, quand on s'est présenté, là, il y a maintenant 3 mandats, on lui demandait toujours des conseils quand on cherchait une ruelle ou un endroit de la commune, on n'arrivait pas à retrouver une parcelle. Oh, on va demander à M. Jam. Pourquoi ? Parce qu'il est chasseur, et donc il va partout. Le territoire est à lui, quelque part. Et voilà Ésaü, intelligent, actif, il met toutes ses qualités au service de la chasse. Point. Alors ça signifie beaucoup, parce que ça signifie aussi qu'il vit au jour le jour. Le plaisir de prendre au piège les animaux ou à l'arc, des animaux qu'il n'a pas besoin d'élever. Pendant que son petit frère, là, est en train de soigner ses bestioles et de veiller à ce qu'ils n'attrapent pas de maladies et ceci et cela. Lui, il décide d'aller à la chasse, il ramène 2 antilopes, en voilà pour la semaine. Il n'a pas besoin de soigner, d'accompagner dans les pâturages, de rester sous le soleil pendant des heures. Il fait ce qu'il veut. Il aime les grands espaces, il aime la liberté, il connaît parfaitement la région. En fait, il a cette impression de... Je me suis mis à sa place, j'ai essayé de m'imaginer. Hein, cette impression de supériorité, de puissance, ça lui suffit. La Bible Chouraki dit quelque chose d'amusant. La chasse est en sa bouche. Alors, ça peut vouloir dire 2 choses, puisque c'est la traduction littérale de l'hébreu. Ça peut vouloir dire 2 choses. Soit que la chasse était en sa bouche, c'est-à-dire qu'il aimait bien le gibier, c'est ce que les traductions en général ont retenu. Soit qu'il en parlait aussi. Vous avez déjà écouté les chasseurs ? Ah, je n'ai pas besoin de faire un dessin, mais pour les enfants, je vais le dire. Mais les chasseurs, quand ils se rencontrent, devinez de quoi ils parlent. Et alors, tel jour, j'étais à tel endroit, et puis il y a une biche qui est passée. Et puis alors, c'était la plus grosse qu'ils ont tuée, elle pesait. Oh là là, ils ont mangé dessus pendant. Et voilà. Les récits de chasse, c'est passionnant, pour ceux qui aiment. Jacob, lui, est beaucoup plus méditatif, plus sédentaire, et aussi plus proche de maman. Ésaü était plus proche de papa, on l'a vu la semaine dernière, parce que papa aimait bien le gibier. Et puis je me demande aussi si quelque part Ésaü n'aimait pas ces fameux récits de chasse. Mais ça, c'est mon interprétation des choses. Alors Jacob est éleveur. Vous savez que c'est la tradition familiale. Abraham était éleveur. Il avait aussi des troupeaux énormes. Et imaginez que maman aussi. Vous vous souvenez de Rebecca ? Quand Eliezer l'a rencontrée, elle était avec son troupeau de moutons. Donc c'était pas une femmelette. Rebecca, elle savait faire face, croyez-moi, gérer un troupeau de moutons, c'est pas triste. Hein. Quand Samuel était petit, on était allé aux bergeries de Rambouillet. Et on a vu comment les bergers faisaient circuler les troupeaux avec les chiens. En sifflant certains sons, tout le troupeau allait à droite, les chiens les emmenaient à droite, ils sifflaient différemment, et les chiens les emmenaient à gauche. C'était fascinant. Ça demande un savoir-faire, c'est ça que je veux dire. Rebecca, elle savait faire tout ça. Vous imaginez ? C'est évolué, ces gens-là. Par contre, la vie d'un éleveur, elle est soumise aux lois de la nature. L'alimentation, les soins, l'eau, l'eau, on en a parlé, la pluie, le stockage, l'entretien des puits, la gestion des troupeaux, des lieux de pâturage et les saisons. C'est pas drôle. Le chasseur, lui, il part quand il veut, il fait ce qu'il veut. La gestion des bergers, j'en ai parlé, et toute l'intelligence de Jacob va être mise au service de son élevage. Ah, on va s'en apercevoir plus tard, hein. Ça lui a bien rendu service. Sagesse, prévision, connaissance des animaux, lui aussi, il ne connaît pas les mêmes par contre. Ésaü, c'est tout sur les animaux sauvages, lui, sur les animaux domestiques. Des saisons, des plantes aussi, puisqu'on soignait avec les plantes à l'époque. C'était bio, Annie, c'était tout bio à cette époque-là. Quand notre histoire commence, on est en pleine routine, mais en pleine routine. Ésaü est encore parti à la chasse. On ne sait pas où, on ne sait pas depuis quand, il est parti à la chasse. Jacob est sur le point de manger. Vous voyez une petite scène tout à fait dans le style de ce qu'on a là. Petite scène tranquille, de routine. Jacob est sur le point de manger ce qu'il avait cuisiné. C'est marrant, ils aiment bien faire la cuisine tous les deux. Ils ont dû avoir une mère qui est une superbe cuisinière. Il faisait cette fameuse soupe de lentilles dont vous avez la recette ici. Ésaü arrive complètement mort de fatigue. Vous imaginez la scène. Donc, il est sous ses tentes, là, dans une région plus ou moins désertique. C'est Israël, hein, quand même. Beersheba, c'est le sud. Ésaü arrive. Et vous savez, parfois, les chasseurs, ils ramènent une antilope, des lièvres, ci et ça. Et puis, parfois, qu'est-ce qu'ils ramènent, les chasseurs ? Rien. Ils ne sont pas contents ce jour-là, il ne faut pas trop s'y frotter. Ils ne sont pas contents, c'est toujours la faute des autres. Bon. Et puis, Jacob, lui, il est tranquille, il est sur le point de manger ce qu'il a cuisiné. Ésaü, c'est là qu'on voit son caractère. Tout de suite, il arrive, il réclame. Je suis fatiguée, laisse-moi manger de ce potage. Et la Bible est claire. On n'y fait pas attention quand on le lit, mais il dit, laisse-moi manger de ce potage. Oui, de ce potage-là. Ça veut dire quoi ? Vous savez, quand la Bible dit quelque chose, ce n'est pas pour rien. Parce qu'elle est assez sobre, en fait. Ça veut dire, donne-moi à manger ça et pas autre chose. Ça, tout de suite. Ça, je le veux. Ça veut dire qu'il est complètement aveuglé par ses désirs immédiats. Et j'ai pensé, attention à nous. Jusque-là, Ésaü n'avait rien fait d'horrible, mais on voit sa forte volonté, son désir d'être immédiatement satisfait. Ah, les enfants, je crois qu'on est tous un peu comme ça quand on est enfant. Maman, c'est tout de suite. On va chez McDo, tout de suite. On va faire ceci, tout de suite. Tu viens jouer avec moi, tout de suite. C'est normal. Mais vous savez, à 20 ou 30 ans, c'est plus gênant. À votre âge, c'est encore permis. Ce n'est pas une raison pour en profiter. Il veut être immédiatement satisfait. Et vous savez, quand on est comme ça, on est une proie facile pour n'importe quoi et pour toutes les tactiques de l'ennemi. Et c'est peut-être encore plus fort à notre époque. Je veux ça tout de suite et pas autre chose. On vit à une époque qu'on appelle presse-bouton. Je ne vous apprends rien. C'est tout, tout de suite, plus vite. Les micro-ondes ont sauvé les ménagères. Les machines à laver, les lave-vaisselle. Enfin, vite. Vite, on a des programmes économiques qui vont plus vite, et puis toujours plus vite. On n'aime pas attendre. Mais vous savez, à cette époque-là, il fallait savoir attendre. Pour manger, pour laver son linge, pour boire, il fallait tout le temps attendre. Et les gens étaient habitués à attendre. Et aujourd'hui, on ne veut plus attendre à tel point que les gens souffrent énormément au niveau de l'argent. Parce qu'on veut acheter tout de suite. Économiser, je me souviens quelqu'un, économiser pendant un an pour acheter quelque chose. Non mais tu rigoles. Et alors ? Si ce n'est pas vital. Et on fait des crédits à tel point que les gens croulent sous les crédits. Parce qu'il faut tout de suite. Au travail, c'est la même chose. On veut la promotion, tout de suite. Même si on n'a pas les compétences. Mais on veut tout de suite. Parfois, il faut attendre d'avoir les compétences pour avoir la promotion. Ça semble un petit peu logique. Dans les problèmes familiaux, c'est la même chose. On veut tout, tout de suite. On veut un mari parfait. On veut une femme parfaite et le plus vite possible. Oui, on ne va pas attendre comme autrefois les gens qui attendaient pour se marier, etc. On veut tout de suite. Évidemment, vous savez qu'à part moi, il n'y a personne de parfait. Ne fais pas de grimaces. Donc c'est un siècle où on ne veut plus attendre. Et c'est terrible pour les jeunes et les enfants. Parce que vous, les enfants, on n'arrête pas de vous demander d'attendre. Attends d'être plus grand. Quand tu seras plus grand, tu pourras faire ci. Quand tu seras plus grand, vous, c'est marrant, vous avez le droit d'attendre. Mais les adultes, ils veulent plus attendre. Donc, la société maintenant repose sur un énorme mensonge. On peut tout avoir tout de suite, c'est pas vrai. Et sommes-nous si pressés que Dieu nous donne aussi, nous, ceci ou cela ? J'ai remarqué, et croyez-moi que j'ai du mal à le dire parce que ça ne fait pas plaisir, mais j'ai remarqué que nos temps d'attente sont vécus dans la prière et dans l'adoration, seront formateurs et nous ferons doublement apprécier l'exaucement de notre prière. Chaque fois qu'on a attendu quelque chose pendant longtemps, qu'on a prié et qu'on a attendu longtemps, c'est formateur, c'est une véritable école. C'est une école où on est formé. Et ça nous permet d'apprécier ce qu'on aura, mais pas seulement ça. On apprend des choses dans les temps d'attente. Oh, c'est dur à dire parce que moi j'ai horreur de prier puis d'attendre des années, des exaucements de prière. Mais pendant ce temps-là, Dieu travaille, Dieu nous change. C'est la vérité, je suis obligée de vous la dire, même si elle ne me fait pas plaisir. Par contre, si dans nos temps d'attente, on le vit dans l'amertume, dans la rébellion et dans la colère, « Ouais, j'ai demandé à Dieu, je ne l'ai pas, et puis, oh, puis Dieu ne s'intéresse pas à moi, et puis j'en ai marre, et puis tout de suite, je veux tout de suite, et on continue. » Amertume, rébellion, colère, amertume, rébellion, colère. Alors, vous savez ce qui arrive, ce que je dis toujours, on tourne autour du même désert pendant des années, sans rien apprendre, et ça c'est triste, et sans parfois recevoir ce qu'on a demandé. J'ai malheureusement vu beaucoup de gens, vous savez, en vieillissant, on a le privilège d'avoir un peu de recul. J'ai vu beaucoup de gens comme ça, qui auraient pu, à mon avis, avoir ce qu'ils avaient demandé. Mais ils étaient tellement... Au niveau du travail, par exemple, ça se voit très facilement, regardez autour de vous, qui auraient pu avoir cette promotion, qui auraient pu avoir les responsabilités qu'ils cherchent à avoir, mais ont eu un tel caractère de cochon, dans l'amertume, dans la rébellion, dans la colère, que jamais le patron n'a osé leur donner la moindre responsabilité. Mettez-vous à sa place. Et ça fait mal. Rien à prendre. Parce qu'on n'a pas su attendre, parce qu'on n'a pas voulu attendre. Et ça vous décrit un peu le caractère de notre Ésaü. Ésaü est tellement aveuglé par sa volonté de se satisfaire aussi qu'il va se tromper lui-même. Et c'est une volonté ciblée, hein. Ce roux-là, c'est ce potage-là, pas autre chose. Alors écoutez, quand on lit ce texte, vous savez, au début, je l'ai lu en me disant « Oh, le pauvre, il avait faim, etc. » Puis au bout d'un moment, je me dis « Mais attends, les conditions de vie là-bas, croyez pas que dans une de ces tentes-là, il y avait quelque chose à manger. Il aurait pu trouver à manger dans le camp. Vous voyez là-bas, vous ne le voyez peut-être pas, mais on cuit des galettes sur la pierre. Il y a des figues, il y a des dattes. Alors j'ai fait une liste de tout ce qui m'est venu à l'esprit, des raisins, de la viande, alors frais ou sec, puisqu'il faisait sécher avec le soleil qu'ils avaient, ils n'avaient pas besoin de four. Hein. Des fruits frais, du lait. Il paraît qu'ils n'en mangeaient pas beaucoup, parce que bon, ils ne se gardaient pas. Mais des fromages, des céréales. Du pain, toutes sortes de bouillies. Mais pourquoi il exigeait cette soupe-là de lentilles? Il était gonflé, tout simplement. Il voulait ce qu'il voulait maintenant, et il était aveuglé par la volonté de se satisfaire de ce qu'il voulait. Est-ce que nous, on n'est pas comme ça, parfois? Est-ce qu'on n'a pas une idée en tête de ce qu'on veut? Et on n'en démord pas, et on ne voit plus rien d'autre. Et en priant pour Noémie la semaine dernière, je lui donnais l'exemple de ma sœur qui avait vraiment une vocation pour l'enseignement. Au moment où elle allait avoir son poste d'institutrice, c'était le retour des gens qui rentraient d'Algérie. Et ils ont dit, on ne prend plus avec le brevet élémentaire. À l'époque, c'est vieux ça pour vous tous. On ne prend plus maintenant, il faut tel et tel examen, je ne sais plus. Elle était tellement découragée. Comment elle allait pouvoir accomplir sa vocation d'enseignante. Et puis ça lui a pris des années, elle était tellement bloquée là-dessus, elle a essayé éducatrice, elle a essayé, parce qu'elle savait qu'elle était appelée à ça. Et puis par tout un concours de circonstances dont je vous ferai grâce, elle s'est retrouvée gratte-papier à la sécurité sociale. L'horreur absolue, tout ce qu'elle détestait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelques années après, Dieu allait permettre qu'elle fasse le concours de cadre, qu'elle le réussisse bien sûr, et qu'elle soit attachée à la formation des cadres. Et pendant des années, elle a formé des adultes motivés. C'est quand même plus agréable que des enfants pas motivés. Elle a formé des adultes motivés, elle les a aidés, elle les a encouragés. Et ceux qui la connaissent savent que c'est sa spécialité, encourager, pour qu'ils réussissent dans leur vie, qu'ils aient la profession dont ils avaient besoin. Et elle a fait sa carrière d'enseignante jusqu'au bout. Mais le plan de Dieu, c'était des adultes en formation. Elle était, elle, braquée sur son potage de lentilles, des enfants à l'école primaire. Ah. Alors, soyons souples dans nos vies. Soyons souples, parce que ce brave Ésaü, je ne sais pas s'il était conscient, mais s'il était conscient, c'était vraiment stupide. Il y avait à manger partout. Et en plus, il va exagérer sa situation. Et là, on va peut-être se retrouver. Hein. Je suis sur le point de mourir. Un chasseur de cette envergure, croyez? Non mais oh, De toute façon, hein, c'est fini, il n'y a plus d'espoir pour moi.
Oh, oh.
Quand vous voyez comment les gens peuvent être résistants, hein, même enfouis sous des décombres, il n'en était quand même pas là, Ésaü, oh. Mais c'est ce qui arrive quand on garde les yeux fixés sur notre difficulté présente. Regardez votre difficulté présente et regardez que ça, que ça. Vous ne voyez plus rien autour. Alors là, c'est terrible. Hein. Et qu'est-ce qu'on dit ? Je ne veux plus vivre comme ça, je ne peux plus. Et vous croyez qu'on a laissé mourir ? On allait laisser mourir le fils d'un émir. C'était un peu ça. Hein. Isaac était l'émir local. Abimélec le respectait. Oh, quand même, oh, c'était pas n'importe qui. On allait laisser crever son fils de faim comme ça, dans tout le camp. Tous ceux qui sont là avec leurs réserves de nourriture. Bon, alors, je me suis dit de deux choses l'une. Ou il a rencontré Jacob dans les pâturages, ce qui est possible. Il y avait là pas forcément grand-chose. Mais Jacob n'était pas tout seul. Avec des centaines de moutons et de chèvres, il y avait forcément des bergers. Et les bergers, ils ont toujours dans leur sacoche, allez voir dans le midi de la France, un bout de pain, un bout de galette, un bout de... Bon. Voilà. Et puis, si jamais il était dans le camp, c'est-à-dire là où ils habitaient, vous imaginez bien que maman ne devait pas être loin, et papa non plus. Et ça m'étonnerait que dans la tente d'Ésaü, qui aimait bien manger, d'Isaac, qui aimait très bien manger, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Donc, en gardant les yeux fixés sur sa difficulté présente, eh bien, il ne voit rien. Et puis, il exagère sa situation. Et est-ce que nous, on ne fait pas pareil ? Attention. Si on a les yeux fixés sur ce qu'on n'a pas, on oublie tout ce qu'on a. Et j'ai entendu à CNN cette semaine que, d'après ce que j'ai entendu, d'après les enquêtes, la France serait le pays où on vit le mieux, globalement, bien sûr. Mais c'est aussi le pays qui prend le plus d'antidépresseurs. Et bien moi, je crois savoir pourquoi. Il y a un remède à ça, d'ailleurs. C'est parce qu'on regarde tout ce qu'on n'a pas. L'esprit français est fait de telle sorte, tellement critique, qu'il voit tout ce qui est négatif, une page blanche comme ça, avec une tache microscopique, il ne va voir que la tache. Et ça, c'est notre problème national, je pense. On n'a pas un cœur reconnaissant. Et un cœur reconnaissant, c'est un cœur d'adorateur. Et comme le personnage de Jacob est dans notre année sur l'adorateur, je crois que Jacob avait ce cœur d'adorateur, Ésaü ne l'avait pas. Et quand on n'a pas un cœur d'adorateur, on n'a pas un cœur reconnaissant. Les deux vont ensemble. Et le remède à ce mécontentement perpétuel, c'est un cœur reconnaissant. Sachons remercier pour les petites choses. Pour les bonnes choses. Tout ce qu'on a. Au lieu de garder les yeux fixés sur ce qu'on n'a pas. Et je crois que là, on aura peut-être davantage aussi. En tout cas, on sera plus heureux. Jacob devait certainement mijoter sa prophétie depuis un bon moment et il en attendait la réalisation. Ça prenait du temps. Il était donc gestionnaire des immenses biens de son père. On va le voir à l'œuvre chez Laban. Il a une qualité d'homme d'affaires. Il sait profiter des occasions qui se présentent. C'est un homme d'affaires. Vous avez déjà vu un homme d'affaires laisser filer des grosses occasions ? Ils ont du flair, ces gens-là. Ils sentent quelle usine il faut racheter au bon moment. Et puis, il faut les entendre. À CNN, il y a une émission business. C'est l'horreur pour moi. Mais je me suis efforcée d'écouter parce que j'étais en train de faire ma gymnastique. Et je n'avais pas envie d'aller éteindre. Mais c'est horrible. Comment ces gens, ils ont un flair. Eh ben, Jacob, il était comme ça. Hein. C'était un homme d'affaires. Il savait se débrouiller. Et il sent son frère en état de faiblesse. Ah, là, c'est l'instinct du chasseur business. L'autre, c'est le chasseur d'animaux, mais lui, c'est autre chose. Son frère est en infériorité. Il sait que son frère ne voit pas plus loin que le bout de son nez, le bonheur immédiat. Il sait que son frère est branché sur tout ce qui est visible, tangible. Les promesses de Dieu qui prennent des années à se réaliser, bon. Et alors, il va proposer un marché en bon businessman. Un marché gagnant-gagnant. Ça convient pour les deux. Il n'est pas bête, notre Jacob. Il est habitué au contrat. D'ailleurs, quand il dit à son frère, quand son frère lui demande à manger, il lui dit « Ah, ah !» Il attendait que ça. « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Alors, d'après les archéologues, ça peut se vendre. Ça se faisait. On a retrouvé des tablettes cunéiformes où il y avait des ventes de droits d'aînesse. Ça veut dire qu'on vendait à la fois ses responsabilités et les avantages. Mais lui, il a pensé qu'aux responsabilités. « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » L'autre, il dit « De toute façon, je suis sur le point de mourir. » Oh, pensez, le pauvre. Mais Jacob, il ne se laisse pas faire. « Jure-le-moi d'abord. Fais-moi un serment. Fais-moi un contrat. Aujourd'hui, on dirait « Signe-la. » À l'époque, on ne signait pas. On faisait un serment et ça suffisait. Ben, il va le faire. Il a tellement faim. Puis Jacob. Voilà le début de l'accomplissement de la promesse. Youhou. Je suis sûre qu'à l'intérieur de lui, il ne se tenait plus. Hein. Et le texte biblique est extrêmement sobre. Ésaü mangea et but. Il se leva et s'en alla. Seul commentaire de la Bible. Ainsi, Ésaü méprisa. Oh, c'est un mot fort. Méprisa le droit d'aînesse. Parce que c'était un honneur, le droit d'aînesse. C'était bien sûr une responsabilité, mais c'était un honneur. Et n'importe qui, avec un peu de bon sens, n'aurait pas craché dessus. Alors, je me suis posé la question, parce qu'apparemment, Ésaü n'a aucun regret, il s'en va. Il a ce qu'il voulait, il est content, il est satisfait, son estomac est plein. Il n'a pas une seule pensée sur le prix qu'il a payé, ni vers ce que Dieu en pense. Alors là, oh. Et je me suis demandé, mais comment il a pu être aussi bête, Ésaü, quand même, de perdre tout comme ça. Et j'ai fait un petit calcul. Il avait 15 ans quand Abraham est mort, et il a donc vu ou entendu parler des enfants que Abraham avait eus avec Keturah. Si on s'attache au texte biblique, on s'aperçoit que pour que les enfants de Keturah ne soient pas des concurrents par rapport au droit d'aînesse d'Isaac, il leur avait fait d'énormes cadeaux et il les avait envoyés vers l'Orient. Apparemment, les gars ont été contents puisqu'ils ont accepté. Le cadeau devait être conséquent. Et je me demande, alors ça c'est purement mon interprétation, hein, ne la prenez pas comme parole d'évangile, mais je me demande si Ésaü, en voyant partir donc ses oncles, par alliance, enfin demi-oncles, par Abraham, il ne s'est pas dit, mais c'est quand même chouette, ils partent avec de l'or, ils partent avec tout ce qu'il leur faut. J'imagine qu'Abraham avait été extrêmement généreux pour qu'ils acceptent de partir. Est-ce que dans son imaginaire d'enfant, il ne s'est pas dit, ouais, ça c'est la belle vie? Il a vu partir ses caravanes de chameaux, d'ânes, etc., ses troupeaux, tout cet or. Et il s'est dit, ah là, c'est autre chose que de rester sous la tente, comme Jacob, comme papa. Il y avait quelque chose d'exotique. Bon, c'est mon interprétation, mais ce n'est pas impossible. Il a dû trouver ça attirant. Pourquoi ? Parce que c'était de l'argent immédiat. Et quand on sait qu'il aimait bien tout ce qui était immédiat, je pense que ça a dû le travailler. Et bon, son droit d'aînesse, ça devait le fatiguer. Mais bon, si on se remet dans l'époque, ce n'est pas impossible. En tout cas, il n'a aucun regret. Et je me suis posé cette question, combien on voit d'Ésaü dans nos vies, au travail, on en a déjà parlé, mais aussi de chrétiens qui, pour avoir tout de suite ce qu'ils veulent, vont accepter de vendre, c'est-à-dire d'abandonner leur appel, leur vocation, leur responsabilité. Et ils s'en rendent compte, malheureusement, beaucoup plus tard, les bénédictions qui sont attachées à ces responsabilités. Le pire exemple, vous le connaissez tous, c'est Judas. 30 pièces d'argent. La belle affaire. Pour Jésus, c'était le prix d'un esclave. Est-ce qu'on n'a pas déjà fait ça dans nos vies? Trahir comme Judas, ce que Dieu nous a demandé. On peut se poser la question. Abandonner notre appel pour échanger contre quelque chose d'immédiat, quelque chose qui nous fait plaisir. Alors, il y a un chant tout simple qu'on chantait autrefois avec notre groupe de jeunes. C'était il y a très longtemps, les enfants, plus de 30 ans. Et les paroles disaient, tu peux tout recommencer et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et si vous avez fait comme Ésaü quelque part dans votre vie, je crois que Jésus, il est venu pour donner son pardon. Judas s'est pas repenti. Mais vous pouvez vous repentir et demander pardon à Dieu. Et ce verset que j'aime beaucoup qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et ceux qui ont fait ça, qui ont désobéi à Dieu, qui ont vraiment pas agi conformément à leur appel, qui ont fait comme Ésaü, peut-être, il y a un nouveau départ qui est possible. Ne restez pas sur un échec. Ne restez pas sur un échec. Et si on regarde Jacob de plus près maintenant, il y a quand même chez lui des bonnes choses. Moi, je l'aime bien, Jacob, quand même. Il croit à la parole de Dieu, il accorde beaucoup d'importance au droit d'aînesse pour qu'il le réclame comme ça. Mais je pense que quelque part, il voit ça d'une façon un peu immature. Il voit l'héritage, le renom, la réputation, la fortune. Mais c'est évident qu'il ne voit pas encore clairement la relation personnelle avec Dieu. Il agit complètement à l'opposé des principes divins. Il a profité des faiblesses de son frère. Et vous savez que dans la loi, bon maintenant dans la loi française, hein, c'est passé, et ils ont bien fait, mais dans la loi juive, profiter des faiblesses de quelqu'un, c'était répréhensible. Il a profité que son frère avait faim, qu'il était déçu, qu'il était épuisé, qu'il était certainement démoralisé. Un bon chasseur, quand il trouve rien, ça lui met le moral dans les talons. Qu'il était centré sur lui, qu'il était aveuglé par rapport aux réalités spirituelles. Il a profité de tout ça. Il a mis toute son intelligence au service de sa ruse. Il a cherché, en fait, à réaliser par lui-même ce que Dieu lui avait promis. C'est bête. Dieu lui avait promis. Pourquoi essayer de le faire par soi-même? Il a fait, en plus, ce que David va refuser de faire à Saül. Vous vous rappelez? Saül n'arrête pas de lui faire la guerre. Il est là, dans la grotte, il s'endort. David est au fond de la grotte avec ses soldats. Et ses soldats disent « Dis donc, vas-y, c'est le moment où jamais, là !» Il dort, il ronfle, tu l'entends? Vas-y, on n'en parle plus. Et David dit non. C'est pas comme ça que Dieu me donnera la royauté. C'est pas en forçant les choses. C'est pas en étant agressif. J'attendrai. Et Dieu sait que David, on a bavé des ronds de chapeau. Il en a souffert. Mais il a tenu dans la droiture, il n'a pas précipité les choses, il n'a pas pris les choses en main. Moi, je l'admire. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait à sa place. Quand on voit tout ce que Saül lui en a fait baver pendant des années, il a refusé. Il est même allé. Alors là, les enfants, il avait du courage quand même. Il est allé sur la pointe des pieds auprès de Saül. Il a pris un bout de son manteau. Il devait avoir une épée bien aiguisée, hein, parce que mes ciseaux, ils ne feraient pas le coup. Il a coupé un bout du manteau, et quand Saül a été loin, loin, qu'il ne pouvait pas l'atteindre, il a agité, il dit « Regarde ton manteau, j'en ai coupé un morceau, j'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait, parce que je respecte Dieu. » Et oui, Jésus non plus ne l'a pas fait, on l'a lu encore ce matin, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Il aurait pu. Et les promesses et les bénédictions du Seigneur ne sont pas à considérer comme une proie arrachée. C'est pas parce que Dieu m'a donné une vocation, m'a donné un appel, m'a donné des dons, que je vais m'en emparer et marcher sur tout le monde pour les mettre en pratique. Et j'aime bien l'image de la proie arrachée, c'est l'image de l'animal carnivore qui grogne. Vous avez déjà vu comment ils font, hein, les lions, qui piétinent les autres pour arracher sa proie. Déjà, si vous avez un petit chien rikiki comme ça et que vous voulez lui enlever son os... Bon courage! Surtout s'il n'est pas très bien élevé. Mais ce n'est pas facile. Alors vous imaginez un lion qui crève la dalle, qui a chassé les lionnes, parce que les lions, je crois qu'ils se contentent de récupérer ce que leur femme va chercher. C'est vrai, hein? Et si le lion, on lui arrache sa proie, je ne vous dis pas les ennuis que vous allez avoir. Hein, vous n'aurez pas le temps d'y réfléchir. Et c'est cette image que Dieu donne. Et c'est exactement ce qu'a fait notre Jacob. Quel bêta! Et je me dis combien d'églises ont été divisées par des gens comme ça, qui ont été appelés par Dieu, mais pas prêts, pas formés, pas mûrs. Ils ont arraché le ministère. Est-ce que vous avez déjà mangé un fruit vert? Mais bien vert, hein? Vous avez mangé des raisins verts, 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 vraiment. C'est horrible, parce que ça fait mal. Ça se prend dans les dents, la Bible même en parle. Hein. Les parents mangeaient des raisins verts et les dents des enfants étaient agacées. C'est terrible, mais c'est horrible, hein. Des raisins verts, une pomme verte. Ouh, que ça fait mal. Et puis pourtant, si vous attendiez un tout petit peu, une semaine, deux semaines, trois semaines, suivant les fruits, waouh, ce que c'est bon, ce que c'est sucré. Hein, moi qui suis folle des fruits, vous savez... Quand je tombe accidentellement sur un fruit vert, je me dis, ce serait si bon si j'avais attendu un petit peu. Alors j'ai un gros péché, c'est que je suis dingue des mangues, et parfois Sonit m'en apportait, mais elle a trouvé le truc, pour pas que je les mange vertes, elle les garde chez elle jusqu'à ce qu'elles soient mûres, et elle me les donne après. Pas bête, hein? Parce que j'ai pas envie d'attendre, et puis j'essaie de les manger avant qu'elles soient complètement mûres. Et c'est horrible de manger un fruit vert. Et c'est la même chose, quand on prend les choses avant que ce soit le temps. Et je me suis dit combien on a vu de missionnaires, et je pense que Muriel est plus apte que moi à en parler, qui sont authentiquement appelés par Dieu et qui sont rentrés d'Afrique ou d'Asie mal en point, parce qu'ils n'ont pas accepté un temps de formation, parce qu'ils n'ont pas accepté d'attendre, parce qu'ils n'ont pas accepté les conseils de leurs aînés. Combien il y a eu de foyers qui ont été brisés, parce que l'un ou l'autre se sont jetés à corps perdu dans leur vocation, travail, ministère, service de Dieu ou autre, pour accélérer les choses. Et leurs enfants ont rejeté Dieu, les foyers ont été divisés. Combien de beaux ministères dans différents domaines se sont lancés sans avoir pris le temps de régler des conflits majeurs, des difficultés majeures de caractère, de choses à changer, de péchés à abandonner. Comme s'il fallait agir au plus vite, saisir au plus vite l'occasion de servir, de faire, en oubliant que l'alliance d'Abraham, elle s'appuie pas sur le faire. Qu'est-ce qu'il avait fait Abraham pour mériter cette alliance ? Rien. À quoi il s'était engagé ? C'est Dieu qui est passé entre les animaux. C'est lui qui a pris l'engagement. L'alliance, elle repose sur l'être, pas sur le faire. Et je crois que ça, c'est important. Savoir attendre, ne pas sauter sur l'occasion comme Jacob, alors, savoir attendre comme ne l'a pas fait Ésaü, et puis ne pas sauter sur l'occasion pour arracher les choses comme a fait Jacob. Et il se sentait justifié, notre Jacob. Mais la promesse de Dieu est pour moi. Maman me l'a dit, ça doit être vrai. Maman l'a dit. Eh oui, Jacob n'avait pas compris que la fin ne justifie pas les moyens. Machiavel n'était pas encore né, pour dire l'inverse. Mais je me souviens d'une prédication, alors ça remonte loin, parce que c'était Marc Adjé, donc de la famille d'Hélène, qui avait fait une prédication à l'Institut biblique de Vaux-sur-Seine, qui disait « On va même jusqu'à mentir pour la gloire de Dieu. On fait des témoignages fantastiques, on exagère un peu les choses. » Et sur Internet, il y en a beaucoup de choses comme ça. Bah, on le fait parce que la fin justifie les moyens. Ah bah c'est pour la gloire de Dieu. Dieu est capable de réaliser des grandes choses. Dieu est capable de réaliser ses promesses. Mais il a totalement désapprouvé la ruse et la manipulation de Jacob. Totalement. Et pourtant, il aimait Jacob. La Bible dit qu'il a aimé Jacob. Mais il a totalement désapprouvé sa façon de faire. Pourtant, vous allez me dire, il ne faisait qu'essayer de réaliser ce que Dieu lui avait promis. Mais ce n'était pas le bon moyen. Dieu n'a pas rejeté Jacob. Il l'a désapprouvé. Et vous savez ce qu'il fait, Dieu, dans ces cas-là ? Presque toujours, vous allez voir. Il va le replacer une deuxième fois devant les mêmes circonstances. Il lui donne encore une chance de bien faire. Et la deuxième fois, eh bien, il fait encore pire ! Et qu'est-ce que Dieu va faire après ça ? On va s'arrêter là. Qu'est-ce que Dieu va faire après ça ? Eh bien, ce qu'il fait toujours. Quand il sent qu'on a un cœur pour lui, quand il sent qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous met à l'école. Jacob, t'as rien compris ? Tu sais pas ce que c'est qu'une relation avec moi ? T'as pris de force quelque chose que je te destinais dans ma grâce ? T'as mis toute ton intelligence et ta ruse à faire ce que tu voulais, quand tu voulais ? Je t'ai donné une deuxième occasion, on en parlera la semaine prochaine. Ben maintenant, Jacob, bye bye, tu pars à l'école. 20 ans, où il va récolter ce qu'il a semé, il a trompé, il va être trompé. Il a pris les habits d'un autre, on verra par la suite. On va lui faire un sale coup avec les habits d'un autre aussi. Enfin, il va récolter tout ce qu'il a semé. Seulement au bout du compte, ça va devenir un homme de Dieu qui est capable de bénir Pharaon. L'école. Alors il y a de l'espoir pour nous les enfants, on n'est pas mieux que Jacob, mais Dieu nous aime, Dieu ne nous abandonne pas, puis Dieu va nous mettre à l'école. Et l'école elle est quelquefois un petit peu, demandez aux enfants, c'est pas marrant l'école hein, parfois, hein. Mais c'est important, et on va passer à cette école. Pendant des années Jacob va être à l'école, ça va être super, que de souffrance, il aurait pu s'éviter s'il avait laissé Dieu faire. Alors essayons, alors moi je vous donne un truc. Essayez d'éviter l'école. Obéissez le plus vite possible. Ça vous évitera bien des années d'école. Et ça vous évitera de récolter des mauvaises semences aussi, comme Jacob.